Bonjour, ici Richa El Hadji et bienvenue dans First Time Founders, le podcast des aspirants entrepreneurs. Deux fois par mois, je vous propose l'interview d'un ou d'une entrepreneur qui se lance pour la première fois. Ici, on démystifie la réussite. Loin des strass et des paillettes qui collent à la peau du monde de l'entrepreneuriat, mes invités vous parleront de leur vécu, de leur parcours et de leurs difficultés. J'espère que cet échange va vous pousser à mener à bien tous vos projets et vous fournira la dose d'inspiration et de motivation qu'il faut pour vous lancer. Bonne écoute! Dans cet épisode, j'ai l'honneur d'accueillir Benjamin Charby, le cofondateur de Darewise, un studio indépendant de développement de jeux vidéo spécialisé dans les expériences de jeux interactives et connectées socialement. Avec Benjamin, nous allons parler de son parcours, de ses expériences chez Lazare et Ubisoft, de la jeunesse de Darewise et de levée de fonds. Nous allons également parler des moments difficiles qu'il a pu vivre, de l'écosystème gaming français et de bien d'autres choses encore. Bonjour Benjamin, j'espère que tu vas bien.
Salut Rita.
Est-ce que je peux te demander de te présenter et de me parler un peu de Darewise?
Bien sûr. Donc je suis Benjamin Charby, un des deux cofondateurs d'un startup gaming à Paris qui s'appelle Darewise Entertainment. On est en train de développer quelque chose qui est un peu à la croisée des chemins entre le social network et le gaming. Ça, c'est vraiment pour simplifier les choses. En vrai, nous, notre vision, c'est que demain, il n'y a plus de différence entre ces deux expériences-là, que notamment pour la génération Z, ce qui nous attend, c'est la convergence toutes les expériences et que la génération Z c'est une génération qui est fluide, qui bouge d'une plateforme à l'autre, d'une expérience à l'autre, et donc aujourd'hui l'expérience gaming, elles sont trop restrictives quant aux interactions sociales qui sont offertes aux joueurs. Et donc ce qu'on est en train de développer, c'est un monde virtuel qui est d'abord un jeu vidéo. En tout cas, c'est aussi notre background, donc c'est développé comme un jeu vidéo. Un jeu dans lequel tu vas pouvoir faire plein de choses. Un peu, t'as ton personnage, tu peux te balader dans le monde, construire, collecter des ressources, établir ton habitation, créer des infrastructures, des services. Mais dans un monde qui est gigantesque, qui va pouvoir accueillir tous les joueurs de toute la planète. Un monde sur lequel on peut se connecter depuis n'importe quelle plateforme, donc depuis ton smartphone, ton PC, ta console, ton MacBook, ton iPad, et dans lequel, eh bien, il y aura cette notion d'interaction sociale beaucoup plus sophistiquée qu'on peut avoir un peu aujourd'hui dans les réseaux sociaux, avec une présence sociale, la possibilité de créer du contenu, de le partager, d'interagir avec des autres utilisateurs, comme on a l'habitude de le faire aujourd'hui, mais tout ça dans un monde virtuel.
Très bien. Et est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours ? J'ai vu que tu travaillais chez Ubisoft auparavant. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que tu as fait et pourquoi tu es passé du M&A, je pense, au gaming, et ensuite on parlera un peu des débuts de Darewise.
Alors en fait, je pourrais presque le présenter autrement, c'est que j'ai été dans le gaming, je suis allé dans le M&A et puis je suis retourné dans le gaming. C'est-à-dire que quand j'étais jeune, étudiant, enfin même avant quand j'étais lycéen, j'étais joueur professionnel au démarrage un peu du e-sport, donc au démarrage de la compétition. Maintenant c'est devenu énorme, mais à l'époque c'était encore assez balbutiement. Et puis, comme à l'époque, il n'y avait pas vraiment une carrière à faire là-dedans, j'ai fait des études plutôt sérieuses. J'ai commencé à travailler dans un fonds d'investissement chez Rothschild. Après, je suis parti travailler chez Lazare en fusion acquisition pendant plusieurs années. Et j'ai eu l'opportunité chez Lazare, notamment, de travailler de plus en plus sur des sujets médias, entertainment. Et donc, de me rapprocher un peu du gaming. Et puis, une chose en amenant une autre, j'ai pu me rapprocher d'Ubisoft. Et c'est comme ça que l'opportunité m'a été offerte de rencontrer le président d'Ubisoft et de rejoindre son équipe derrière.
D'accord. Est-ce que tu dirais que t'aurais dû foncer plus tôt ? Est-ce que tu regrettes tes 3 années
Déjà, le monde de l'époque était différent. Aujourd'hui, je dirais fonce. Oui, la case M&A, elle n'est pas nécessaire. Parce qu'en fait, dans les startups, on apprend tellement de choses que c'est un peu remplacé. Je trouve qu'il n'y a rien qui soit aussi épanouissant. Néanmoins, clairement, mon expérience de M&A, et qui plus est chez Lazard, elle m'a appris, elle m'a, en fait, au-delà de la technicité, c'est là que j'ai appris à devenir un peu un professionnel surperformant. Tu vois, c'est-à-dire que dans ces environnements de travail-là, un peu comme dans les grands cabinets de conseil en stratégie, tu travailles beaucoup sous pression, avec une exigence, on attend une rigueur, on attend de toi que le travail soit impeccable et livré toujours dans des délais qui sont un peu impossibles. Donc, nécessairement, tu sors de ces expériences-là en professionnel différent, quoi. Tu n'as plus la même capacité de travailler que les autres, tu n'as plus la même rigueur, la même précision. C'est un peu comme celui qui est passé en prépa, si tu veux. Hein, celui qui est là en prépa, c'était peut-être pas très, très intéressant intellectuellement, mais il sort avec une capacité d'exécution qui est un peu différente des autres. Donc voilà, pas de regret du tout. J'ai passé de belles années, j'ai pas beaucoup dormi, mais j'ai passé de très belles années. Je me suis fait plein de potes que j'adore et que je suis content d'avoir toujours aujourd'hui. Donc aucun regret, ça m'a appris beaucoup de choses. Mais oui, aujourd'hui, le contexte étant différent, je pense que je serais à l'école, je me jetterais dans une startup, peut-être même j'en démarrerais une moi-même.
Et du coup, chez Ubisoft, tu faisais quoi exactement? Et à quel moment tu as décidé de partir pour créer Darewise?
Alors, chez Ubisoft, j'ai eu vraiment de la chance parce que je suis arrivé dans une nouvelle division qui était en développement, qui était. Donc, du coup, c'était très entrepreneurial. J'arrivais dans un. Il y avait presque tout à faire. Et donc, même si j'arrivais dans une société qui avait déjà 13 000 employés, en fait, moi, je m'occupais d'un nouveau vertical. Et donc, j'ai eu l'opportunité de toucher à beaucoup de choses. Donc là encore, ça a été très intéressant et ça a aussi beaucoup éveillé chez moi ce désir d'entreprendre. Là, j'avais vraiment l'opportunité de prendre des initiatives, de conduire des choses, de dire personne s'en occupe, je vais le faire, tu vois. Et donc, j'ai fait beaucoup, beaucoup de choses, à la fois au niveau stratégique, business development, et puis surtout, c'est là que mon rêve a commencé à se réaliser, c'est que j'ai pu me former au game design. Et rejoindre une équipe de dev. Et puis c'est là que j'ai travaillé sur deux projets, notamment un peu sur un projet qui s'appelle The Division, mais surtout sur un gros projet qui s'appelle Assassin's Creed, où là j'ai fait plein de choses. Et quand je suis parti, j'étais game director sur un des jeux. Et donc là, j'ai réalisé mon rêve de gosse, quoi. J'étais dans une équipe de dev sur un floor avec des développeurs, avec une équipe de design que je dirigeais. Donc c'était vraiment. Je suis toujours très reconnaissant d'ailleurs que Ubisoft m'ait permis de faire ce grand écart professionnel que beaucoup n'auraient pas laissé faire. Mais Ubisoft a toujours eu cette grande ouverture d'esprit là-dessus.
Et c'est super, en fait, on sent la passion derrière du gamer. Et à quel moment, du coup, tu as décidé de partir pour créer Darewise?
Alors, au bout d'un moment, si tu veux, je suis un mec qui est un peu impatient. Et puis, mine de rien, j'avais un peu atteint mon. Alors, pas entièrement, mais j'avais un peu atteint mon rêve de gosse. C'est-à-dire que là, je me retrouvais. C'est bon, j'avais fait shipper un jeu AAA à plusieurs dizaines de millions de dollars de développement et tout. J'avais vécu ce que c'était. Mais moi, j'avais vraiment envie de faire du jeu en ligne. J'étais un peu obsédé par les expériences sociales et le fait de jouer avec d'autres. Et c'était clairement pas l'ADN d'Ubisoft, même s'il y avait une volonté de se développer là-dessus. Ubisoft, c'est une boîte qui a vraiment cette capacité, ce talent pour créer des univers très forts, des histoires très fortes et te donner un peu ce qu'on appelle ce power trip, tu vois, où tu vas incarner ce personnage assez héroïque. Et c'est très différent du monde dans lequel, du monde connecté, où tu vas plutôt créer ton avatar et on te donne les outils de la création, les outils pour façonner l'expérience. Donc je me retrouvais un peu en conflit avec cette vision-là, ce désir que j'avais là. Et puis, la réalité d'Ubisoft qui était des gens qui savaient faire plutôt des films, tu vois des trucs qui sont un peu linéaires. Donc c'est là que je me suis dit, OK, c'est pas vraiment l'endroit où je vais réussir à réaliser ce désir que j'avais. Puis je commençais à fantasmer de ce qu'on appelle le métaverse à l'époque, tu vois, on est en 2014 et Mais lire Neil Stephenson et tous ces bouquins, Snow Crash, Rimini, je me dis, putain, mais c'est génial, c'est le monde de demain, c'est ça, c'est un monde dans lequel je vais avoir plusieurs existences, une physique et puis de multiples digitales. Voilà, donc je me suis dit que c'était le moment d'aller faire ça. Il y avait une petite révolution techno qui était en train de se passer, ça s'appelle le cloud, tout le monde connaît, mais à l'époque, les gens pensaient que le cloud, c'était principalement pour stocker des fichiers. En vrai, le cloud, ça permettait beaucoup, beaucoup plus que ça. Et donc c'est là que je me suis dit que c'était le moment pour essayer de me lancer. Et puis j'avais envie de prendre le risque. J'avais pas mal de gens autour de moi qui me poussaient pour essayer de monter ma boîte. J'ai trouvé des gens qui ont voulu m'accompagner financièrement. Donc c'est comme ça que ça a démarré.
D'ailleurs, si tu peux nous raconter un peu les débuts de Darewise, donc comment tu as rencontré ton cofondateur, qu'est-ce que vous
Ouais,
avez
alors c'est Derwaze a un peu eu deux vies. C'est d'abord quand j'ai d'abord démarré Derwaze en j'ai créé Derwaze tout seul en 2015 avec une fausse bonne idée qui était de un nouveau modèle un peu révolutionnaire que j'avais de production où on allait avoir les idées, être un espèce de super studio de création et puis externaliser le développement avec des partenaires. Et en fait, c'était assez désastreux parce que c'est compliqué de travailler avec des partenaires quand tu n'as pas très très bien défini ce que tu cherches à obtenir d'eux. Or, le jeu vidéo, même quand tu écris ce qu'on appelle un game design document, une bible artistique et tout, c'est du feeling, tu vas chercher le fun, donc tu as besoin d'être en mesure d'itérer. Et donc, c'est compliqué de travailler d'itérer avec des prestataires. Donc c'est ce qui a démarré, c'est ce qui m'a permis de faire le premier jeu, mais qui était un désastre. C'est vraiment un échec professionnel, personnel. Enfin, j'ai pas très bien vécu d'ailleurs. Mais en revanche, ça m'a appris beaucoup. Et c'est là que je me suis dit, ok, je vais. C'était une mauvaise idée. En revanche, faire des jeux, je sais faire, mais avec mon équipe. Donc je monte mon équipe. Et donc c'est là que je suis allé chercher mon cofondateur Sam, qui était chez Crytek à l'époque, un autre très gros studio, très connu en Allemagne. Et Sam avait travaillé aussi sur The Division. C'était un peu le petit génie. Et donc je suis allé lui dire, écoute bien, on va monter un studio à Paris. Je suis en train de signer un super gros deal avec une très grosse boîte de tech au UK qui s'appelle Improbable et qui nous a amené justement une brique technologique qui nous permettrait de faire des trucs assez incroyables. Voilà, et donc je l'ai convaincu comme ça, il est arrivé et puis on a ouvert le studio en janvier 2018.
bien. Donc en fait, le Derwise de maintenant, c'est le Derwise qui a commencé en janvier 2018.
Si on veut, c'est ça, c'est-à-dire que ça a le même nom, c'est la même entité, mais il y a eu un pivot majeur à ce moment-là, d'une boîte qui était plutôt une boîte de production, tu vois, vers un vrai studio, des équipes de développement, des programmeurs, des artistes, des designers. Et ça, c'est ce qu'on est aujourd'hui depuis janvier 2018.
Super. Et du coup, depuis janvier 2018, quelles ont été, on va dire, les premières étapes que tu as suivies? En fait, qu'est-ce qu'on fait quand on décide de relancer une entreprise dans ton cas, mais en général de lancer une entreprise?
Bah, de toute façon, il faut un projet. Tu vois, on n'a pas juste relancé pour relancer. Là, on avait un driver très facile qui était. On était en train de. On avait un, il y avait un nouveau jeu, un nouveau concept que j'avais créé. Donc, tu vois, j'ai continué à écrire des concepts. Et puis là, il y avait celui-là qui me plaisait bien et qui était celui sur lequel j'avais trouvé ce deal avec ces Anglais. Et donc là, on a démarré la pré-production, la conception de ce projet avec d'abord, OK, on va construire l'architecture technique. Il faut savoir que les gens savent pas toujours, mais le jeu vidéo, c'est probablement un des softwares les plus compliqués à faire. C'est plus compliqué à faire que tous les SaaS, que toutes les web apps. Parce que tu as des sujets très très différents, aussi bien de l'intelligence artificielle que des systèmes gameplay, que du rendu 3D, c'est des trucs très compliqués d'ingénierie, etc. Donc, tu as besoin déjà d'installer des fondations techniques qui sont assez lourdes et ça prend du temps. Et puis de constituer l'équipe. Tu vois, on partait vraiment de zéro, quoi. On n'avait pas d'équipe, il y avait moi et mes inspirations, donc il a fallu aller recruter un peu un à un. Mais au moins, on avait, c'est, tu vois, très, très tôt défini, et je pense que c'est vraiment un truc qui nous qualifie bien aujourd'hui chez Derwai, c'est cette vraie capacité à être focus. Tu vois. Et donc, on a dit, OK, ben, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on veut livrer? On veut livrer ce proof of concept, cette espèce de prototype. Ce prototype, il est comme ça, il faut faire ça dedans, et on a commencé à écrire toutes les user stories qui sont dedans, et dire, ben, OK, pour faire ces user stories, on a besoin de quoi? OK, un artiste comme ça, un programmeur comme ça, et donc d'aller les chercher. Et ben, ça a marché. Enfin, ça a marché. En tout cas, on a livré notre prototype à temps. Avec une toute petite équipe, avec un tout petit budget, mais le prototype était, lui, pour le coup, très très bien, et donc ça nous a ouvert beaucoup de portes derrière.
Et du coup, vous avez livré votre prototype quand?
Donc tu vois, on a ouvert le studio janvier 2018, et on a présenté le proto en août 2018, tu vois, 8 mois après. En vrai, du coup, c'est plutôt, ça nous aura pris 7 mois. Enfin, tu vois, tu comptes pas, même pas le mois de janvier, donc hop, déjà, il est 13, 6 mois. Et puis, avec une équipe minuscule pour faire ça. Et c'est parce que en août, il y a un très gros studio dans l'industrie du jeu vidéo qui s'appelle la Gamescom. Et donc, notre objectif, c'était d'être prêt. On avait loué un petit stand, on avait un tout petit stand qu'on avait réussi à négocier. Et donc, on était là et on présentait à tous les publishers qui venaient. Mais ce qui était quand même pas mal, c'est que ça nous avait permis d'être signé par un agent très très connu à Los Angeles qui s'appelle UTA. Qui a plus les gros agents comme les agents de stars, et ben, il est pareil dans le jeu vidéo, on a des agents qui te représentent auprès des éditeurs. Voilà, donc ça, les choses se sont exécutées comme prévu. Après, on a fait un petit revirement, on a un peu changé notre fusil d'épaule à ce moment-là, et c'est là qu'on a dit, en fait, ils ne nous plaisent pas du tout, ces éditeurs. On passe notre temps à leur présenter un truc qui est hyper moderne, hyper innovant, et les mecs veulent tous nous refaire la copie d'un truc existant. Et donc on a dit, c'est pas les bonnes personnes avec lesquelles on travaille. On va chercher les investisseurs. Et donc là, je suis parti aller pitcher ici, les business angels. On était vraiment à un stade de pré-seed, donc plutôt business angel, et on a comme ça sécurisé un peu d'argent.
D'accord. Et en fait, concrètement, un studio de jeux vidéo, parce que je m'y connais pas du tout, ça fonctionne. En fait, vous développez des jeux et ensuite vous les revendez à des publishers qui...
Non, alors il y a plusieurs modèles en fait aujourd'hui. Tu as un peu ce modèle-là qui est je vais travailler avec un éditeur qui en fait va financer le développement de mon jeu et s'occuper de la distribution et de la promotion. Ça, c'est le modèle un peu old school, je dirais. Tu vois, où dans lequel toi, le développeur, tu fais ton concept, tu fais ton proto, et puis tu vas pitcher tous ces éditeurs. Il y en a un qui signe, tu dis banco, c'est lui qui va prendre le relais sur les coûts, et puis qui va te reverser 15, 20%, 30% parfois des revenus du jeu, et puis le reste, c'est pour lui. Ça, c'est le modèle à l'ancienne. Le modèle plus moderne, c'est un modèle d'auto-édition, où tu dis, bah, j'ai pas besoin d'eux. Parce que je pense que c'est pas. Parfois, on a besoin d'eux, donc c'est un bon modèle. Ça dépend du produit, mais en tout cas, tu vois, chez Derwise aujourd'hui, notre approche, c'est de travailler sans éditeur et dire, bah, en fait, toute la fonction édition, on l'a construit ici. User acquisition, community management, monétisation, tout ça, il faut qu'on le fasse là. Et le produit aussi. Donc là, du coup, voilà, tu as tout intégré, tout internalisé.
D'accord, donc vous, c'est plutôt ce modèle-là.
C'est plutôt ce modèle, et d'ailleurs, tu verras qu'en vrai, les studios qui sont financés par Venture, c'est 100% des studios qui fonctionnent comme ça.
D'accord. D'ailleurs, on va en parler.
J'imagine.
T'as fait une première levée avec DBA, c'est ça?
Avec DBA, avec Kima Ventures, exactement.
Ok. C'était quand?
En fait, on l'a fait sous forme de BSR, donc finalement, ça a duré assez longtemps. On a démarré en octobre 2018 et on l'a fermé et on a finalement terminé ce BSR un peu en décembre 2019. C'est-à-dire, on a fait à plusieurs reprises entrer des gens et c'est comme ça qu'on a levé 1 million d'euros.
Ok. Et ensuite, tu as levé avec Serena, Laker Star, et je
Et
pense que
Lake Star, ouais.
Lake Star, pardon. Et je pense que j'étais chez Serena quand Olivier, qui est ton board member, j'imagine.
Ouais, totalement.
a décidé d'investir.
D'accord.
Est-ce que tu peux nous dire un peu ce que toi tu attends de tes investisseurs? Et je vois que tu as quand même de beaux BA dans dans ta cap table. Est-ce que tu peux nous dire en fait quelles sont tes attentes?
Ouais, en fait, on a, tu vois, le, on a une particularité qui est qu'on est dans une industrie qui est assez technique, et donc le, à la différence de plein d'autres business SaaS, typiquement, je vais moins chercher chez nos investisseurs une vraie expertise sur comment faire un jeu vidéo ou comment faire grossir une audience de jeux vidéo. Ça, pour le coup, j'estime que c'est notre savoir à nous. En revanche, ce que je trouve très intéressant chez les investisseurs, c'est quand ils sont capables d'avoir une vision un peu plus hélicoptère, tu vois, parce qu'ils parlent beaucoup, et donc de synthétiser, de prendre un peu le cœur et du coup d'être capable de te challenger sans nécessairement le micro détail d'expertise, tu vois, mais avec sûr beaucoup de bon sens, beaucoup une vraie compréhension un peu de consultant, tu vois, des enjeux. Donc ça, je trouve ça déjà très important. Deuxièmement, c'est que mine de rien, faut pas oublier que une fois que tu rentres dans cette mécanique de venture, t'es parti pour plusieurs tours. Et donc c'est important d'avoir et là aussi il y a une science. Là aussi il y a une vraie expertise à construire. Quand c'est la troisième fois que tu montes une boîte et que c'est ta troisième fois que tu lèves des fonds, t'es pas du tout aussi efficace, t'es bien plus efficace que quand c'était la première fois. Tu comprends mieux la dynamique. Et donc moi j'étais très clair, tu vois, j'ai beau être un ancien banquier d'affaires, c'est pas mon écosystème celui du venture. Et donc j'ai dit à mes investisseurs, pour moi lever des fonds, c'est moi qui vais le faire, bien sûr, mais j'ai besoin que vous m'aidiez, que vous m'accompagniez dans ce process, que vous m'expliquiez à comprendre les enjeux et les drivers. Et donc ça, c'est ça que j'ai trouvé ça, c'est un truc qui marche vraiment bien avec notre board. Et puis, ce que tu veux aussi, bien sûr, c'est que si tes investisseurs s'adaptent à la réalité de ton entreprise, si on commence à surformaliser toutes les interactions quand tu es une boîte de 35 personnes, c'est un peu overkill. Et puis, mais en même temps, tu as besoin de présence. Voilà, donc je pense qu'il y a une espèce de juste milieu. Ce qui est sûr, c'est que ce que tu veux pas, enfin, en tout cas, moi, ce que moi je veux pas, c'est des investisseurs purement financiers qui viennent juste mettre de l'argent parce qu'en vrai, l'argent, c'est toujours plus facile à dire qu'à faire, mais l'argent, tu finis toujours par le trouver, je pense.
Ça dépend, je pense.
Oui, non, mais enfin, ce que je veux dire, c'est que, en fait, je dis tu finis par le trouver parce que tu itères toi-même sur ta vision. Si t'es pas trop, si t'es pas trop obstiné, têtu et obtus, tu vois, tu comprends que si personne va investir, c'est qu'il y a un problème dans ta proposition de valeur. Tu peux la revisiter et au bout d'un moment, tu finis par avoir quelque chose. Là aussi, tu fais de l'itération. Là aussi, tu es agile. Tu finis donc par avoir quelqu'un qui dit OK, là, ça match. Et ça match avec aussi le bon timing, le bon, tu vois, c'est le bon moment pour moi, la bonne stratégie au moment où moi, en tant que business angel, je décide de faire, ou en tant que fonds de early stage, je décide de faire. Donc, il y a beaucoup de capital qui est disponible aujourd'hui. Je pense qu'au final, celui qui est prêt à itérer sur sa propre vision finit par trouver. Mais donc du coup, faut prendre ceux qui vont t'aider vraiment à grossir, à grandir.
Mais là, tu parles des VC alors que je pense que c'est très difficile déjà de lever avec des business angels.
Je trouve que c'est plus facile avec des VC qu'avec des business angels, en fait, parce que le business angel est vraiment, c'est impossible à lire, quoi. J'ai eu aussi bien des mecs qui m'ont épuisé en aller-retour pour mettre des mini-tickets et d'autres qui m'ont vraiment investi, qui ont investi en 25 minutes et des plus gros tickets. Tu vois, donc en fait, c'est assez épuisant le VC parce que tu sais vraiment pas comment piloter le truc. T'as tout, t'as de l'investisseur avisé, de l'investisseur passionné. Et puis en plus, il y a un peu d'émotif, y a un peu d'émotion là-dedans. Tu vois, c'est l'argent des gens. Donc tu vois que la relation, elle peut être aussi un peu plus stressante derrière. Le VC, c'est un investisseur professionnel. Donc tu vois, c'est son métier. Il n'y a pas d'émotion. C'est pas ça. Donc, c'est assez rationnel, c'est factuel. Donc, je trouve que c'est plus simple à faire. Pour le coup, pour les business angels, j'ai envie de dire que quand tu es à ce stade et que tu fais pas trop la fine bouche, quoi. Tu as besoin de cet argent pour démarrer. Il faut celui qui veut te le donner, tu le prends. Et puis, c'est derrière que tu vas commencer à être un peu plus picky.
D'accord. Et tu as des conseils un peu pour démarcher les BA en dehors des gros réseaux de business angels?
Non, bah oui, pour le coup, sur les BA, alors là, ce qui est sûr, c'est que je pense, enfin, moi, le cold call, ça n'a pas marché. Tu vois, c'est. Toutes ces histoires ont démarré par une intro. J'ai trouvé que les intros de founder, ça a très bien marché. Tu vois, des copains qui avaient monté des boîtes, qui me disaient, je dois te présenter à machin qui investit chez nous, ça t'intéressera et ça m'intéressera. Ça a amené un deal flow dans ce sens-là plutôt de qualité. Et puis, faut pas lâcher quoi. Les mecs, il faut les relancer 10 fois. Et c'est pas parce qu'en fait tu les relances 10 fois qu'ils n'ont pas envie, c'est juste que. Bah, c'est que un investissement pour eux, tu vois, c'est pas le truc qui est critique dans leur vie de tous les jours. Bah, s'ils peuvent le faire, ils sont contents. S'ils râlent le truc, c'est pas la fin du monde. Pour toi, ça l'est. Il faut y aller. Faut y aller. Moi, j'ai quelques exemples en tête et c'est je dirais un peu parmi les business angels que je préfère le plus aujourd'hui, mais où je les ai harcelés, quoi. Je les ai harcelés, et puis je savais que le mec était à un endroit, une soirée, tu vois, où il y avait un autre VC qui parlait. Je savais que ce mec serait là. J'y suis allé exprès pour ça, pour lui dire alors, lui donner une update. Et finalement, tu vois, et finalement, on a closé. Et puis, ce qui était intéressant, c'est que souvent, avec les business angels, il y a un petit effet de réseau. Ils peuvent amener. Quand le business angel trouve qu'il a trouvé quelque chose qui lui plaît beaucoup, tu te dis, il se sent un peu presque Superman, tu vois, d'avoir sourcé le deal, et donc il a presque envie de, une forme de fierté d'en parler à ses copains.
D'accord. Et toi, tu penses quoi un peu de l'écosystème gaming français et de ses évolutions ces dernières années?
La France a toujours été un des acteurs majeurs de la production de jeux vidéo dans le monde. Troisième acteur, un des trois plus grands acteurs est Ubisoft, donc c'est pas rien. On a eu un problème pendant des années qui était la vraie fuite des talents vers les États-Unis et le Canada, et aujourd'hui je pense qu'on tient beaucoup mieux. On a une industrie qui est vraiment très mûre aujourd'hui, tout en conservant un peu la fougue de liée à l'innovation. C'est-à-dire qu'on sent pas, on ressemble pas à une industrie lourde, même si en fait il y a des boîtes qui sont très très établies et très grosses. Donc ça reste très dynamique et avec un talent incroyable en France. Donc ça c'est génial. Ce qui nous manquait c'était un écosystème d'investisseurs. On était assez jaloux de ce qui se passait dans les pays nordiques par exemple où là il y a vraiment beaucoup beaucoup de fonds, beaucoup de business angels. Et là, on voit que ça commence à changer. Bien sûr, il y a Serena V13, mais on voit qu'il y a aussi d'autres fonds qui développent vraiment de l'appétit pour le gaming. Je pense qu'ils ont encore du mal à franchir le cap parfois parce que c'est stressant, le gaming. Il y a un truc qui est un peu incontrôlable qu'ils ont du mal à apprécier. Mais je vois que ça évolue vraiment pas mal.
Et toi, tu répondrais quoi en fait aux critiques qui sont faites aux jeux vidéo, tu vois, le fait que ça peut, par exemple, certains disent que ça peut rendre les enfants agressifs ou les rendre violents ou
Je pense que à la fois il faut pas balayer toutes ces convictions en disant que c'est n'importe quoi. Il faut regarder les problèmes en face. Mais en fait, ce que je pense juste, c'est que il faut comprendre que le jeu vidéo aujourd'hui, c'est le loisir, c'est le premier loisir au monde. Devant la télé, devant le livre, devant le cinéma, devant la musique. Donc nécessairement, c'est facile de trouver une forme de corrélation entre ça et ce qui se passe et les drames qui se passent à côté. Je pense que tout comportement excessif est problématique, et donc Un joueur qui passe trop de temps sur un jeu, c'est sûr que c'est pas bon, de la même façon que quelqu'un passe trop de temps devant un film ou trop de temps. Alors c'est bizarre parce que si je disais trop de temps à lire un livre, personne ne va me dire que c'est un problème. Mais en vrai, si, moi je pense que quelqu'un qui fait que ça, et je trouve pas ça génial. Donc il
Oui,
faut.
il s'isole du
Voilà,
reste.
bien sûr, exactement. Dans un monde aujourd'hui, on arrive à connecter, à communiquer avec les autres et à rencontrer des gens grâce à ces plateformes-là. C'est dommage d'être tout seul dans des univers qu'on se crée. Donc, je pense que c'est une histoire de modération, mais on a chacun aussi notre part de responsabilité. Et nous, aujourd'hui, chez Darwise, c'est extrêmement clair. On l'assume, cette responsabilité, et on n'a pas du tout envie de faire des jeux où on passe notre temps à tirer sur les autres. Tu vois, pourtant, la plupart des développeurs qui sont chez Darwise ont travaillé sur des jeux violents. C'est pas du tout ce qu'on fait aujourd'hui. C'est pas pour dire que l'industrie doit arrêter, mais nous, en tout cas, clairement, pense qu'on peut faire, pense qu'il peut y avoir un monde meilleur et on pense qu'on a un outil fabuleux pour le montrer. Donc, c'est ça qu'on a envie de promouvoir.
Et c'est quoi vos projets pour les 12 prochains mois?
Ah, c'est un projet, c'est celui qu'on est en train de développer en ce moment, qui s'appelle Life Beyond, qui est, j'espère, celui qu'on va développer pendant de nombreuses années, parce que d'un jeu, on va essayer d'en faire une plateforme sociale dans laquelle les gens vont venir, bien sûr, s'amuser en s'évadant, en incarnant le personnage qu'ils ont choisi, et puis aussi. Interagir avec d'autres joueurs, créer des choses et peut-être même gagner un peu d'argent. Et donc, du coup, avoir le sentiment que cette expérience-là vraiment vient enrichir leur vie.
Très bien. D'ailleurs, j'ai vu que vous recrutez énormément de personnes là en ce moment. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à postuler. C'est sur Welcome to the Jungle.
Absolument. Et sinon, Darewise, darewise.com, il y a aussi les liens, il y a tout, des informations sur nous.
Juste quelques questions avant de clôturer. Je sais que tu es super occupée. Sur toi, cette fois-ci, en fait, j'aimerais savoir quelles sont les difficultés que tu as pu vivre. Tu nous as parlé tout à l'heure du pivot, mais en dehors de ça, les plus grosses difficultés que tu as pu vivre depuis le début de ton aventure entrepreneuriale.
Ah, je pense que c'est le on a les gens ont tendance à vouloir toujours séparer les émotions du travail, mais en fait c'est pas aussi simple que ça. Et à l'inverse, je pense que il faut être capable de je pense que c'est important de laisser les émotions venir au travail. Et nous, on est passé par des hauts et des bas. On a eu des personnes clés de l'entreprise qui sont parties ou dont on s'est séparés parce que ça marchait pas. Et donc, du coup, c'était parfois triste de se dire au revoir. Et puis aussi, la pression un peu d'avoir le cash flow pour être capable de continuer le développement. On est dans un business qui est un peu particulier, qui est hyper capital intensive, où on va mettre un peu de temps avant de générer du revenu. Donc, du coup, il va falloir que des gens nous passent de l'argent pour qu'on puisse avancer jusqu'à un jour être capable de s'autofinancer. Donc, voilà. Donc, on a eu comme beaucoup de startups, je pense, des petites sueurs froides là-dessus. Et ça, je pense que ça a été le plus dur. Et puis, de maintenir une équipe tout le temps motivée malgré ce contexte-là. Tu vois, quand tu. Où tu la tames tout, tu annonces toujours pas qu'on a levé 20 millions et que du coup il n'y a pas de stress pendant les 3 prochaines années. Mais c'est pour ça qu'il faut bien choisir les gens avec lesquels tu vas travailler dans ces moments-là. Et en vrai, je pense qu'il y a une réalité qu'on a tous découvert, c'est qu'en vrai, on n'est pas tellement nous à risque que ça parce qu'on a la chance d'être sur des métiers qui sont extrêmement demandés et que donc en vrai. Bah, le sinistre et la catastrophe, s'ils arrivent un jour chez Derwise, eux retomberont sur leurs pattes d'une façon ou d'une autre. Voilà. Donc,
Je pense pas que le Covid vous affecte autant que d'autres?
Non, 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 bien sûr. Nous, on fait partie de la poignée de chanceux qui à la fois, déjà parce que, bien sûr, le produit qu'on développe, c'est celui qui est le plus apprécié en ce moment quand on est confiné. Nous, on est encore trop tôt pour pouvoir vraiment en profiter et que ça booste nos usages ou nos ventes. Mais en revanche, sur l'organisation du travail, bah, tu sais, on passe du temps à développer du software et à faire du concept. Donc en vrai, on est en mesure de collaborer très très bien en remote et ça nous a même ouvert les yeux. Et on a embauché encore plus de gens qui n'étaient pas en France et qui sont basés en Europe. Et du coup, on a, je crois, quasiment un tiers de l'effectif qui est basé en Europe aujourd'hui.
Et comment tu maintiens une certaine culture d'entreprise avec des effectifs dispersés un peu partout?
Aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est que. Alors là, ça marche plus avec le nouveau confinement, mais on a imposé une chose, c'est à tout le monde de venir 2 jours sur place au même moment. Et donc, l'idée, c'était vraiment de rassembler ça. Entre le moment où on a pris cette décision, on n'a pas vraiment réussi à le faire autant qu'on voulait. On l'a fait une vraie fois vraiment. Et puis, pour l'instant, on a été un peu tu vois, attentiste en disant, on va voir ce qui va se passer. En revanche, on a mis en place un paquet de trucs. D'ailleurs, on avait fait un blog post un peu pour raconter un peu tout ce qu'on faisait pour que ça puisse aider. Et on a les suites, les game nights, les pizza parties. On a fait beaucoup. On a fait une super Halloween party. On a fait un goûter Halloween il y a 10 jours. Voilà, on a fait livrer le goûter à tout le monde. En France, en Europe c'était plus compliqué, mais au moins en France. Et puis tout le monde était déguisé. Donc on essaie de trouver des moments. Et puis quand même, on est des gamers, on aime bien jouer ensemble. Donc en fait, on se retrouve aussi dans ce contexte-là. Donc ça nous aide pas mal. Mais on passe beaucoup, beaucoup de temps à essayer d'organiser des choses pour se rapprocher les uns des autres, mais à travers des plateformes digitales.
Très bien. Une dernière question, et c'est la question que je pose un peu à tous mes invités. Tu fais quoi de ton temps libre?
Alors, je fais quoi de mon temps libre? J'ai la chance d'avoir 2 enfants merveilleux et qui, du coup, me prennent beaucoup, beaucoup de mon temps parce qu'ils sont encore tout petits. Donc, j'avoue que aujourd'hui, même en essayant de faire du time boxing, c'est un peu compliqué. Clairement, j'aime bien jouer aux jeux vidéo quand même, hein.
J'ai cru comprendre.
Donc je fais ça et puis je lis. En vieillissant, j'ai pris pas mal le goût à la lecture et puis faire du sport. En fait, je fais beaucoup de choses aujourd'hui, un peu à mon. D'ailleurs, je regrette de temps en temps, mais je fais un peu tout ce que je fais, c'est aussi beaucoup centré sur mon propre développement, tu vois. Faire attention à mon corps et à ma santé, et puis dire des choses qui m'enrichissent un peu. Voilà, je suis un peu plus là que dans l'ex dans vraiment l'ex la satisfaction d'une passion, tu vois, comme j'avais avant, ou que j'adorais prendre des cours de pilotage et puis voler. Voilà, ça, j'ai plus ces trucs que j'arrive plus à faire aujourd'hui, mais la famille, c'est presque c'est une passion d'une certaine façon.
Sachant que ton métier, c'est ta passion quand même. T'es de ceux qui
Exactement. Mais
travaillent.
c'est très très vrai, tu vois. C'est-à-dire que mais ça fait déjà des années pour moi que c'est comme ça, que franchement, je me plains pas. Je suis hyper heureux. J'ai jamais eu la boule du dimanche soir. Ça fait très 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 longtemps que je l'ai plus. Je suis toujours excité de venir au bureau, toujours un peu connecté. Donc non, moi particulièrement, j'ai beaucoup de chance.
Sur ces belles paroles, je vais te dire merci beaucoup pour ton temps et à
Merci à toi,
bientôt.
merci pour l'invitation.
Salut!
Merci à Benjamin pour son temps et sa gentillesse et merci à vous d'avoir écouté jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le noter sur Apple Podcast et à vous abonner à la newsletter. Toutes les informations sont dans la description. Je vous souhaite quant à moi une très bonne semaine et à bientôt!